I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja, mon fils s'est réveillé très tôt, il a fait une sieste courte, donc je peux parler avec un volume de voix normal. C'est la joie, c'est le bonheur, d'autant plus qu'aujourd'hui je reçois deux journalistes de talent. D'une part, Cédric Ingrand, comment vas-tu Cédric ?
Comme un Cédric qui est en vacances, donc forcément ça va très très fort. Voilà, je suis dans ma villégiature bretonne où il fait un temps breton, donc vraiment on est déçu sur rien.
Voilà. et avec un ADSL qui fonctionne très bien, dis-moi.
Écoute, je suis dans la Télécom Valais, ne l'oublions jamais, mais quand même avec un ADSL de quelques mégabits, pas terrible, mais ça suffit pour Skype et on va se contenter de ce petit bonheur-là.
Mais écoute, les petits bonheurs, il faut s'en contenter, parfois tu as raison. Et aujourd'hui, c'est peut-être pas forcément le cas, puisqu'on a un grand bonheur, celui d'avoir avec nous Mélinda d'Avansoulas. Comment vas-tu Mélinda, anciennement TF1, aujourd'hui Frandroid, je suis très heureux que ton changement de poste, bon en même temps on est le 14 juillet, mais ton changement de poste nous permette de t'avoir en même temps Cédric Ingrand, magnifique.
Mais oui, voilà, comme ça je retrouve Cédric, comme ça quelques mois après mon départ, ça me fait plaisir.
Mon ex.
Voilà, exactement, c'est notre trouvaille à nous.
Bon, ciel, mon ex.
Je jalouse d'être en vacances quand même, il faut bien le dire, même si nous sommes le 14 juillet, parce que je rêve de vacances aussi, même sous la pluie bretonne, ça me ferait plaisir.
Écoute, ça veut dire que t'es pas en vacances maintenant pour le 14, c'est pas un jour férié pour toi ?
Si, aujourd'hui c'est férié quand même.
Oh ben, un petit peu drôle. J'ai mal compris comment ça se passait chez Frandroid. Si c'était
non, non, 14 juillet c'est repos.
Voilà. Très bien, très bien. Écoutez, je suis content de vous avoir tous les deux parce qu'on va avoir plein de sujets très variés à aborder aujourd'hui. On va parler un petit peu de TikTok et c'est un petit peu WTF TikTok en ce moment. Il y a aussi des sujets qui fâchent avec des conseils, des recommandations du Conseil national du numérique pour l'environnement. On va en parler dans un instant. On a aussi la police qui a aux États-Unis des méthodes intéressantes pour avoir des informations dans ses enquêtes. Plein d'autres sujets différents. Mais avant ça, j'aimerais tout de même remercier rapidement les auditeurs qui soutiennent l'émission, même sous la chaleur de l'été. Certains décident de rejoindre le Patreon sur patreon.com/rdvtech. Et aujourd'hui, je remercie Carole Rouge, Ant Nonc, Dark Lumière, Jean-Baptiste, Antoine T, Mathieu Giraud, Baptiste Daillé ou Dallé, Nicolas, The Boss Classic Cars, Amandine Body et une bise spéciale à Dominique Jean-Prost qui se reconnaîtra. Merci à vous tous, on redira quelques mots sur le Patreon dans un instant. Et donc, on va commencer avec, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire avec TikTok ? Qui est l'app qui est la coqueluche des jeunes, comme vous le savez si vous avez écouté l'émission par le passé, ou si vous êtes vous-même jeune, ce qui est possible. Il y a des gens qui sont jeunes qui écoutent l'émission.
On ne sait jamais, oui.
Il s'est passé plein de trucs ces dernières semaines, dernières deux semaines avec TikTok. La première chose sur laquelle on ne va pas passer forcément beaucoup de temps, c'est que suite à une mise à jour d'iOS avec iOS 14, on s'est rendu compte qu'un certain nombre d'applications lisaient votre... clipboard, les textes que vous copiez-collez, ils passent par le clipboard et TikTok entre autres, il y avait LinkedIn, il y avait plusieurs applications qui lisaient ce clipboard. Alors on a tout de suite sauté à des conclusions d'intention maléfique. Moi, je vais vous la faire très courte, je ne crois pas à cette intention maléfique dans ce cas précis, mais ce qui s'est passé ensuite, c'est que les États-Unis ont exprimé le fait qu'ils étaient en train d'étudier la possibilité de bannir TikTok. On a Amazon qui a envoyé un mail à tous ses employés leur demandant de ne pas avoir TikTok sur leur téléphone. Wells Fargo a également envoyé un mail à tous ses employés en disant « il ne faut pas avoir TikTok sur vos téléphones ». On parle des appareils que les employés utilisent pour le travail, hein, bien sûr. Sur leur téléphone perso, ils font ce qu'ils veulent. Ensuite, Amazon a dit non, c'est une erreur. Accessoirement, ils ont une relation commerciale extrêmement solide avec TikTok. Et donc, on a une sorte de... ajouté au fait que depuis un certain temps, on a des gens qui disent que TikTok est un organe de du gouvernement chinois pour espionner le monde, une sorte de stratégie commercialo-réseau socialesque pour espionner le monde entier. Il y a une sorte d'ombre de suspicion qui plane sur TikTok. Pour ceux qui ne le savent pas, TikTok est une app, un réseau social basé sur des vidéos courtes qui sont accompagnées de musique, très virale, qui est devenue vraiment la coqueluche des adolescents et des jeunes, et qui va au-delà de ça depuis, on va dire, un an et demi, deux ans. Il y a toute une partie de la population, je pense que c'est l'app la plus populaire en ce moment dans cette section de la population, et du coup, on entend beaucoup de gens dire TikTok, c'est un truc à ne pas utiliser et c'est le pire des espions. Et de l'autre côté, bah, c'est un petit peu la question que je vais vous poser. J'ai l'impression que Mélinda, tu approuvais dans mon oreille. C'est un peu la question que je vous pose à vous deux. Mais est-ce qu'il y a des raisons de penser que TikTok est une application qui espionne ses utilisateurs?
Je ne sais pas s'ils espionnent, mais je sais... Enfin... TikTok, en fait, il faut quand même savoir que face aux États-Unis, ça fait des mois, en fait, que les États-Unis ont TikTok dans le radar.
En ligne de mire.
En ligne de mire, ça fait quelques mois. Là, il y a eu un conseiller de Trump qui s'est pris d'une nouvelle frénésie en disant qu'il faut frapper un grand coup. Il y a WeChat aussi qui est dans l'œil du cyclone américain. Mais ils ont un problème avec TikTok, c'est que c'est trop puissant pour eux. Ils ne mesurent pas, en fait, par rapport à des Instagram qui avaient envie de faire la même chose, ou des Facebook. Et en fait, ça prend trop la jeunesse. Et je pense que c'est ça le problème, c'est que ça cible la même chose que le gouvernement veut aux États-Unis, c'est-à-dire maîtriser la jeunesse. Et ils n'ont pas, en fait, d'équivalent aux États-Unis pour contrer ça. Et comme il y a aussi cette peur maintenant de tout ce qui est chinois, enfin, on le voit dans la moindre sortie de Trump. Le simple fait que ce soit étiqueté chinois, de toute façon, c'est le mal. Et donc, on va leur accoler tous les problèmes. Le copier-coller des données, les vidéos qui espionnent. TikTok, ils ont quand même annoncé qu'ils avaient effacé, je ne sais plus combien, 50 millions de vidéos, là, je crois, ou quelque chose comme ça, pour montrer qu'ils essayaient quand même de faire attention. Mais de là à croire qu'ils espionnent, comme le dit le gouvernement américain, je suis sceptique. Je pense que c'est vraiment juste une application, je ne dirais pas à la con, parce que ça fait vieille, mais je pense que c'est juste un truc de délire.
C'est une application populaire, en fait,
ouais, c'est juste populaire, et je pense que c'est trop populaire pour eux, en fait. Ils n'ont pas la main mise dessus.
Ce qu'il faut savoir, je pense que la plupart des auditeurs le savent, mais TikTok est une application qui est développée par TikTok, la société, qui est une propriété de la société ByteDance, qui est une société chinoise soumise au bon vouloir du gouvernement chinois, mais qui, comme tu le dis, TikTok fait quand même des pieds et des mains pour montrer leur indépendance, non seulement du gouvernement chinois, mais de la Chine en général. Ils ont bougé une grande partie de leurs opérations en dehors de Chine, ils se plient aux suggestions, voilà, c'est le terme que je cherchais, de différents gouvernements. Et j'ai l'impression qu'il s'agit effectivement un petit peu comme Huawei, on a beaucoup d'accusations, très peu de preuves, et il s'agit surtout de TikTok, qui est une boîte, comme tous les autres réseaux sociaux, qui veut faire son argent sur les informations des utilisateurs, et c'est une question commerciale. J'ai vu énormément d'accusations, et jusqu'ici, c'est des accusations plus ou moins vagues, des possibilités. Alors, c'est vrai que comme pour Huawei, il y a un potentiel, parce que le gouvernement chinois a plus de pouvoir sur les sociétés du pays et peut exiger des informations plus qu'ailleurs. Mais même avec... on est vraiment dans le domaine du potentiel. On n'a pas de quoi que ce soit de concret. Cédric, tu vas peut-être me contredire, je ne crois pas, mais c'est de la spéculation, non. Tout ça.
Totalement. Alors, on va écarter l'histoire du clipboard, parce que c'est quelque chose qui concerne aussi... Il y a plus d'une trentaine d'applications sous iOS. Ça allait, je crois, de l'appli du Wall Street Journal jusqu'à Viber. Enfin, tu vois, il y a des trucs qui n'ont absolument rien à voir. Il y a des jeux aussi.
Et tous sont fournis des explications.
En gros, garder un œil ouvert sur le clipboard, souvent, par exemple, pour permettre aux gens de faire des copier-coller de leur mot de passe pour se connecter, enfin, ce genre de choses. Mais du coup, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément une bonne idée de faire des copier-coller de ton mot de passe. Mais donc ça, ce n'est pas le problème. Sur le fond, tu as raison. Je pense que, c'est-à-dire que le succès de TikTok arrive à un moment de tension assez extrême entre les États-Unis et la Chine, sur fond de Covid, de tout ça, et de guerre commerciale, et d'accord commercial qui n'est pas signé et qui signera peut-être un jour, je ne sais pas. Et tout à coup, ils le voient comme un instrument de soft power, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils sont pas, les Américains ne sont pas habitués à voir des applications, je veux dire, sur des millions de smartphones chez eux, venir de l'étranger, déjà en général. Un peu comme les Chinois, d'ailleurs, finalement. Et surtout, visant les jeunes générations, et Mélina le disait très bien, sur une couche de la population où il n'y a pas vraiment d'équivalent, il n'y a pas un concurrent américain. Tu vois, il y a des sommes de fonctions qu'on va trouver ailleurs, mais pas rassemblées en un seul produit. Donc oui, ça leur fait un choc. Et du coup, ça en fait tout comme Huawei, exactement. Hein. C'est-à-dire que voilà, TikTok se retrouve dans la position d'être le deuxième otage de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine.
C'est vrai que j'avais jamais... Non, je voulais juste dire que j'avais jamais vu les choses de cette manière. C'est vrai que les Américains, tellement de leur, on en parle tout le temps, les GAFA, mais toutes les applications qui peuplent nos téléphones mobiles viennent de là-bas. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir des applications qui viennent d'un autre pays. C'est extrêmement rare, si ce n'est jamais.
Imagine par exemple que demain il y a une vague de blockbusters chinois qui explose le box-office américain. Bon, ça semble impossible pour plein de raisons. Mais si tu veux, il y a 3 ans, si je t'avais dit il y a une appli chinoise qui va s'imposer comme le réseau social des jeunes aux États-Unis, tu m'aurais dit Cédric, sois sérieux 2 secondes, s'il te plaît. et donc évidemment, il y a une espèce de panique morale face à ça. Et Trump,
et en plus,
c'est un levier de plus
dans
sa guerre commerciale contre la Chine.
Mais je pense que c'est surtout ça. On parle autant de TikTok, parce que comme je t'ai dit, ça fait des mois qu'il y a des bisbilles aux États-Unis avec TikTok. TikTok, je crois même qu'ils ont installé des bureaux à New York ou je ne sais plus, aux États-Unis, pour être tranquilles. Et en fait, ils ont beau faire tous les efforts de la Terre, en ce moment, ils n'y arriveront pas. Parce qu'en plus, je pense qu'ils ont tellement affaibli Huawei aux États-Unis, Washington, avec toutes les sanctions, ils passent à autre chose, en fait. Mmh. Et c'est aussi, pour eux, le meilleur moyen de rappeler que toute la situation actuelle, le coronavirus, le fait qu'ils gèrent très mal la situation, c'est à cause des Chinois. Donc TikTok qui vient espionner en plus par-dessus les citoyens, ça fait beaucoup de Chinois, tu vois, c'est ça pour eux.
Ouais, c'est le nouvel ennemi, quoi.
Le jour où il y aura autre chose, ils auront un autre problème avec un autre pays, le problème TikTok, il va s'évanouir dans la nature d'un seul coup. Mais là, ils ont été aidés aussi par les Indiens. Comme les Indiens ont banni TikTok, ça leur a fait un argument de plus. Donc ils jouent vraiment ça, c'est vraiment purement commercial. Parce que TikTok, dans l'absolu, il ne faut quand même pas oublier que le nouveau patron TikTok aux États-Unis, c'est Kevin Mayer, qui est le monsieur qui vient de lancer Disney+, quand même, accessoirement. Donc ils font vraiment des efforts pour s'américaniser. Kevin Mayer, qui était quelqu'un de très très bien vu quand il était chez Disney, c'est pareil, il s'est fait incendier quand il est arrivé chez TikTok. Deux hommes forts américains qui réussissent, c'est devenu la marionnette de Pékin. Enfin, ils ont un côté, ça va être n'importe quoi cette histoire TikTok, je pense.
Je pense que ça va se régler de soi-même, parce que de fait, le fait qu'ils aient débauché Kevin Mayer, bon, qui était prêt à partir, parce que normalement ça aurait dû être lui le nouveau CEO de Disney, et ça n'a pas été lui. Du coup, TikTok America va devenir une société à part entière, et TikTok va devenir une société américaine, parce que finalement c'est là que va se situer commercialement son plus gros marché, même au point de devenir une société cotée. Et là, tout à coup, le fait que ça devienne une société américaine avec un Américain à sa tête, coté à la Bourse de New York, leur redonnera un capital de confiance. Et puis, en fait, le fait que ce soit une société cotée va les forcer à un peu plus de transparence aussi. Donc, je pense que c'est des choses qui vont se régler.
Peut-être, ouais.
Je ne vois pas sur quel levier l'Amérique pourrait interdire TikTok aujourd'hui.
Oui, c'est sûr que c'est compliqué. Et disons que... comme on le disait tout à l'heure, c'est pas qu'il y a zéro danger potentiel, parce qu'effectivement les sociétés chinoises, enfin le gouvernement chinois a un certain pouvoir sur les sociétés chinoises, donc, mais c'est comme avec Huawei, il y a plein d'accusations, il y a un fond de potentiel, mais on n'a vu aucune preuve jusqu'à maintenant. Et alors oui, on pourrait se dire, du jour au lendemain, il y a le potentiel que le gouvernement chinois demande des choses, et une fois que toute ta population est sur TikTok et que ton infrastructure 5G est sur Huawei, peut-être que t'es pris au piège. Mais c'est quand même... c'est pas que c'est impossible, mais on n'est quand même pas dans un cas hyper immédiat, quoi, dans une crainte hyper immédiate.
Mais là où je pense qu'ils vont avoir des problèmes avec TikTok, il est purement financier de popularité. Parce que oui, je ne sais plus à combien ils en sont de millions, milliards d'utilisateurs. Je crois qu'aux États-Unis, en plus, c'est un chiffre dingue. Mais il y a énormément de people dessus. Il y a énormément de célébrités qui communiquent là-dessus, qui y vont. TikTok commence à réfléchir à comment financer ces gens-là. Parce que jusqu'à présent, à la différence de YouTube ou Instagram, il n'y avait pas d'argent qui sortait. TikTok ne payait pas les gens pour venir faire des vidéos chez eux. Là, ils sont en train de réfléchir à ça. Donc, je pense que quand il va y avoir un impact financier en plus de la popularité, j'ai peur que là, ils commencent à avoir du mal quand même à s'en débarrasser de TikTok aux États-Unis. Ouais. Ils vont pas y arriver.
Oui, et bah, comme on le disait, c'est un petit peu une question commerciale, en tout cas pour le moment. Oui. On verra, on va continuer à suivre ce feuilleton. Bon, il y a un autre truc, peut-être deux petits sujets un petit peu plus rapides. Le Conseil national du numérique a fait une série de recommandations pour aider le combat contre le réchauffement climatique, donc des recommandations qui aideraient à protéger l'environnement. L'une de ces recommandations a fait tiquer un certain nombre d'entre nous. Je ne veux pas parler pour vous, mais moi, en tout cas, c'était le cas. C'était l'idée de mettre fin au forfait Internet fixe illimité. Donc, on sait bien qu'on a des forfaits Internet mobiles qui ne sont pas illimités. Ça, ça fait très longtemps. Mais les formats fixes à la maison, on n'a pas de limite de données. Quand vous prenez votre forfait chez Orange en fibre ou chez Free ou SFR ou Bouygues, eh ben, vous avez votre forfait à la maison qui est à telle vitesse, tel type de connexion, mais il n'y a pas, vous êtes limité à 200 gigas ou à 50 gigas ou à ce que c'est. L'une des recommandations donc du Conseil national du numérique dans le cadre de cette série de recommandations, alors elle n'est pas seule, hein, il y en a d'autres qui viennent en même temps, c'est de mettre fin à ces forfaits illimités comme étant la norme. Il pourrait encore exister, mais pour les gens qui les voudraient vraiment et donc il faudrait payer plus cher. Si sur le principe, on pourrait comprendre l'idée, c'est-à-dire qu'on va limiter la boulimie d'utilisation de services et donc les serveurs qui tournent derrière, et donc dans une certaine mesure, les serveurs qui consomment de l'énergie et qui relâchent du CO2, etc., ça me semble... Enfin, je ne sais pas, moi, j'ai l'impression que non seulement c'est regarder le problème par le petit bout de la lorgnette, mais en plus, ça sert beaucoup plus aux opérateurs qui voudraient faire payer plus les utilisateurs qui consomment beaucoup et donc faire une structure d'abonnement qui leur serait plus lucrative que... Enfin, j'ai pas l'impression que ça soit vraiment un moyen essentiel de protéger l'environnement. Mais...
C'est complètement idiot.
Ok, merci. Je ne sais pas le dire
comme
ça.
Si au moins ça avait une jambe, si au moins ça avait un pied dans la réalité, ce serait intéressant. Mais même pas. Et ça tient. Alors ça tient à plein de choses. Je ne sais même pas par où commencer. D'abord, le problème, c'est que la consommation de données d'une infrastructure informatique est pas. C'est pas une échelle de 1:1 avec son débit de données, avec les données. C'est-à-dire que tu vois, 2 gigaoctets ne te coûtent pas deux fois l'énergie consommée par l'envoi ou la réception d'un gigaoctet. Donc c'est pas très grave d'avoir des... Parce que illimité, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que tu arrives de toute façon à une consommation moyenne qui va évoluer selon les utilisateurs. Mais si tu veux, illimité veut rien dire en fait. Illimité, il y a peut-être des gens qui vont, entre grosses guillemets, abuser de l'illimité, mais ça abuser de l'illimité ne veut rien dire. C'est-à-dire l'utiliser en fait comme, par exemple, utiliser une connexion mobile 4G illimitée comme connexion domestique. Mais il y a plein de gens qui font ça. Et c'est pas tant une question d'abus qu'une question de moyens. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui le mobile est la seule connexion à l'extérieur, et c'est avec ça qu'ils vont regarder Netflix, qu'ils vont regarder YouTube, etc. etc. Deuxièmement, on s'acharne encore sur des infrastructures informatiques qui sont parmi les plus vertueuses. C'est-à-dire que, par exemple, nos data centers... Allez voir le Twitter, par exemple, d'Octave Klaba, le patron d'OVH. Il y a un très belle figure, un truc, un histogram intéressant qui explique qu'en fait, les données, la quantité de données traitées par nos data centers depuis, je crois, 8 ans, a été multipliée par 6 ou 8, alors que pendant ce temps-là, leur empreinte énergétique, là je ne parle pas de CO2, leur empreinte énergétique, elle est restée flat. C'est-à-dire qu'on est face à des infrastructures qui sont de plus en plus efficaces en termes de leur utilisation d'énergie. Et alors, le dernier clou dans le cercueil de ce raisonnement qui ne tient pas debout, c'est qu'on est en France. C'est-à-dire qu'on est dans un pays dont 94% de la production électrique est décarbonée. Donc ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que ce serait intéressant d'avoir, on pourrait avoir peut-être ce genre de raisonnement, je ne sais pas, en Pologne, c'est-à-dire dans des pays où on fait majoritairement du charbon, aux États-Unis aussi, pourquoi pas, mais chez nous, ça n'a aucun intérêt.
Ce qui est accessoirement...
dire, nous allons arriver à, je ne sais pas, réduire la consommation électrique des data centers de 10 ou 15%, ce qui est peut-être le potentiel, le plus gros potentiel de ce genre de mesure, hein. Ça n'ira jamais plus loin. De toute façon, sur ton empreinte carbone, en général, tu n'es même pas dans l'épaisseur du trait. On est dans le battement d'aile de papillon en termes d'effet. Donc ça n'a aucun intérêt.
C'est
à part se donner une impression de vertu qui ne sort de nulle part.
Ce qui... Ouais, vas-y.
Je suis tout à fait d'accord avec Cédric. En fait, cette mesure, je ne la comprends pas. À part être dans l'air du temps et dire, regardez, ça va être mieux, mais quel est l'intérêt? À la rigueur, à côté de ça, en parallèle, on voit augmenter les forfaits mobiles. On a des forfaits maintenant proposés avec 100 gigas, 200 gigas. Enfin, ça rime à rien. La consommation moyenne, à part inciter, comme tu disais très justement, les gens du coup à ne prendre qu'un forfait mobile qui va tout faire et à enrichir les opérateurs qui proposeront du coup des forfaits illimités beaucoup plus chers, je ne comprends pas l'intérêt de cette mesure en fait. Parce que le gain, il est minime. C'est un gain de bonne conscience en fait.
Ouais.
Il y a juste ça.
Il y a, comme tu le dis, les opérateurs, parce qu'aux États-Unis et dans d'autres pays, il y a des méthodes de ce style, pas pour protéger l'environnement, mais traditionnellement, commercialement, c'est ce qui se faisait. Et effectivement, les forfaits augmentent avec l'usage et le seul intérêt de ce genre de mesure, c'est de prendre plus d'argent à ceux qui consomment plus d'Internet. Ce qui, bon, on pourrait parler de ce point spécifique, mais on le voit, on le constate dans les autres pays, c'est pas que les gens consomment moins, c'est juste que ceux qui consomment plus vont payer plus. Et sur ce point, ça pourrait paraître logique à ceux qui ne comprennent pas le fonctionnement d'Internet, mais ça ne l'est pas pour plein de raisons. Il y a d'autres choses à prendre en compte. Comme tu le disais, Cédric, les data centers aux États-Unis également, ils travaillent énormément à réduire leur consommation et à avoir une consommation aussi verte que possible parce que air du temps, ça fait bien sur les communiqués de presse et c'est commercialement intéressant pour eux.
Mais c'est commercialement intéressant pour eux. Regarde ce qui s'est passé il y a encore quelques jours. Renault, par exemple, a annoncé qu'il allait déplacer l'essentiel de sa gestion de production dans le cloud et dans le cloud de Google. Alors on dit souveraineté, machin. Oui, mais enfin, le truc, c'est qu'en faisant ça, ils gagnent en efficacité, en souplesse, en tout ça, etc. Ils n'ont plus de ferme de serveurs à gérer eux-mêmes, etc. Mais surtout, ça leur permet de remplir leurs engagements en termes d'émissions de CO2, parce que tout le cloud Google est neutre en termes de CO2. Mmh. Et c'est là aussi qu'on tape sur des infrastructures qu'on ne connaît pas, où il suffit de regarder un peu ce qui se passe dans la vie réelle, je veux dire, pour s'apercevoir que non, si tu veux améliorer ton empreinte CO2, tu as au contraire tout intérêt à tout bouger dans des clouds qui ne sont pas les nôtres, quoi.
Qui ne sont pas les nôtres, ou alors à faire des clouds. Enfin, tu parlais d'Octave Klaba, à utiliser des trucs comme OVH qui font dans cette direction. Et dernier point, et puis on va arrêter parce que je pense qu'on a bien compris notre opposition à cette idée. Il y a quand même un autre élément à prendre en compte. On va dire, il faut que les gens consomment moins sur Internet. Donc, au lieu de rester à la maison et de regarder du YouTube ou du Netflix, puisque c'est de ça qu'on parle dans le fantasme de la population, eh ben, on va faire quoi? On va prendre sa voiture et aller ailleurs au Leclerc ou à l'hypermarché pour prendre une glace. Je sais pas, je suis, tu vois, il y a quand même peu d'activité.
Qu'est-ce que c'est que cette comparaison spéciale?
Tu iras te connecter sur le Wi-Fi de quelqu'un d'autre,
du Starbucks pour aller.
Tu peux juste allumer ta télé en restant dans le même canapé. Enfin, tu vois, il y a d'autres possibilités.
Admettons.
Mais ça n'existe plus, ça, Cédric. Personne
n'a fait ça. Ce que je veux dire, c'est que
il y a d'autres
alternatives à Netflix que d'aller faire les courses.
Tu vois. non, pas faire les courses. Je voulais dire, ok, je comprends ce que tu veux dire, je suis d'accord.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Je comprends ce que tu veux dire.
Il y a peu d'activités moins consommatrices d'énergie que de rester chez soi. À partir du moment où tu vas te déplacer de chez soi, si l'idée est de faire sortir les gens de chez eux, bah, ça va devenir plus consommateur. En même temps, ce n'est pas forcément une mauvaise chose de faire sortir les gens de chez eux. Mais bon, bref, vous l'aurez compris, on ne pense pas que cette mesure, nous, ici, faites du vélo, c'est une bonne idée. Et c'est vrai que ça ne consomme pas. Bon, ok. Dernier point que je voulais aborder, c'est une pratique assez intéressante qu'ont débusqué des gens de chez Vice. Ils se sont rendus compte que la police des États-Unis était en train d'acheter des énormes quantités de données qui proviennent de hacks. qui sont des données piratées, des données qui ont leaké, des mots de passe, des adresses IP, des données personnelles, etc., de manière à court-circuiter les procédures légales et pour avoir les données privées qui peuvent les aider dans les enquêtes, hein, tout de même. Ce qui est une... Alors, légalement, c'est intéressant parce que les procédures légales de perquisition, de, d'avoir le droit de fouiller dans les appareils électroniques de quelqu'un ou même chez, physiquement chez une personne, bah, il faut avoir une cause et un mandat délivré par un juge. Mais ces données-là qui sont, dans la pratique, accessibles publiquement... Alors, peut-être qu'il faut aller les acheter ou qu'il faut les récupérer sur des endroits pas très... comment dire ? Dans des endroits qui sont un petit peu des coins sombres de l'Internet. Mais c'est quand même des données auxquelles ils pourraient avoir accès et qu'ils n'ont pas l'interdiction de récupérer. Et c'est quand même... Ça laisse un arrière-goût un petit peu bizarre dans la bouche. Mais c'est... Je sais pas, j'ai trouvé ça intéressant comme méthode pour la police... Pas très... Moi, ça me paraît pas super cachère, mais je sais pas. Est-ce que ça vous paraît...
C'est borderline, ouais.
C'est un peu borderline, c'est, quand voilà, même, on est d'accord.
C'est pratique, mais borderline, dirons-nous. Mais ils n'arrêtent pas, parce que
On leur donnera quelques points quand même pour l'ingéniosité. Mais oui, c'est ça fait curieux quand même.
tu voulais ajouter quelque chose, Mélinda ?
Non, mais parce que j'ai cru entendre ces derniers temps, il n'y a pas eu une autre histoire où ils ont piraté un réseau aussi de un réseau téléphonique crypté ou je ne sais quoi pour
ah oui. Alors ça, c'était autre chose.
Des dealers aussi.
Non, ça, c'était autre chose. C'était un réseau, effectivement, de messagerie cryptée qui était utilisé par une bonne partie des criminels sur lesquels ils enquêtaient. Et ils ont réussi à avoir donc une quantité incriminante énorme de données et de communications. C'est ça. Mais ça, c'était une enquête normale, si tu veux.
Non, c'est ça, normal.
Ils ont enquêté sur le truc. Il y avait un moyen de communication crypté qu'ils ont réussi à infiltrer. Et voilà, et donc c'était un gros coup. Mais là, c'est qu'ils vont aller acheter des données hackées, c'est quand même...
En ce moment, il faut quand même louer l'ingéniosité de la police américaine qui met toute la technologie à son service. Parce que tu sais, la fameuse histoire où ils ont Clearview, où aussi ils ont récupéré les données, la base de données, tu sais, qui a été conçue à partir des vidéos, des photos qui traînaient sur le web.
Oui, Clearview AI, qui est une société qui a construit, voilà, tout à fait. Ouais.
Et qui du coup la revend surtout à la police. Mmh. Pour pouvoir avoir le visage de tout le monde. Donc moi, je loue l'ingéniosité et l'ouverture à la technologie moderne de la police américaine. Parce que je pense qu'ils peuvent faire de grandes choses. Du coup, c'est pas forcément plus rassurant pour nous, mais ça va être plus pratique pour eux, à mon avis.
Oui, je pense aussi, ce qui est effectivement peut-être un peu inquiétant. La chose que je note, si on doit en fait trouver autre chose qu'un arrière-goût un petit peu étrange dans la bouche en lisant cette news, je dirais que c'est le fait que si la police se met à payer des criminels qui ont obtenu ces données avec des activités criminelles, ça encourage du coup les activités criminelles. Il y a quand même une chaîne là qui est un petit peu étrange, on va dire, pour un service qui est censé faire respecter la loi. Ça me fait penser, vous savez, au jeu World of Warcraft, avec lequel j'ai beaucoup de familiarité, il y avait des gros problèmes de hack sur des comptes qui étaient utilisés ensuite pour créer de l'argent virtuel en jeu, qui était ensuite revendu à des joueurs pour des sommes modiques, de manière à ce que les joueurs puissent court-circuiter le système du jeu et avoir de l'argent, donc de la monnaie en jeu, plus facilement. Et forcément, le fait d'acheter cet argent, ça encourageait les hackers à hacker plus. Et donc, ça encourageait cet écosystème. Bon, là, on n'est pas dans les mêmes ampleurs, évidemment, mais il y a quand même quelque chose de profondément perturbant dans l'idée que la police aide les criminels à payer les criminels pour faire leurs activités criminelles.
Ils prennent des risques, hein, parce que la première fois qu'ils vont vouloir en débusquer un, ça peut aussi leur retomber dessus, quoi. Enfin, moi, c'est un pari dangereux, quand même, je pense, pour
oui,
la guerre.
Je ne sais pas s'il ne serait pas plus efficace de leur faire la chasse, de les arrêter et de saisir les données. Tout à coup, ils auraient... voilà.
Oui,
mais en même temps, le système s'arrêterait, donc ce serait...
C'est ça, oui, peut-être qu'ils en ont bien besoin. Écoutez, je suis sûr qu'il va y avoir une sorte de holà qui va être mis par les autorités judiciaires à ce niveau-là. Ce n'est pas possible que ça continue, quoi.
Je pense qu'il y a une PD brave, parce qu'il y a eu pas mal d'histoires aux États-Unis où la police, je ne sais plus où c'était... Minneapolis ou je ne sais où, a été, ou je ne sais plus dans quel état, avait été hacké à un moment. Il y a eu pas mal de hacks de commissariats et de choses comme ça. Donc je pense qu'il y a aussi une PD brave derrière.
On vous hack pas, vous nous emmerdez pas et vous achetez des trucs chez nous. Ouais, voilà. Non mais là, on est à deux doigts de. on est à deux doigts de d'Arkham et de voir Batman débarquer, quoi. Je crois que.
Voilà. Mais c'est pour ça, ce n'est pas une utopie, Batman. Ouais, ouais.
Bon, bah écoutez, sujet intéressant, effectivement. On verra si ça a des suites dans les mois qui viennent. Je vais faire une toute petite pause pour vous lire un commentaire de Babar14 sur iTunes qui dit « Merci Patrick pour les éclairages de news de la semaine. Ta façon de faire une analyse en explorant les avis divergents est toujours enrichissante. Je suis très fier d'être patriote. » Continue comme ça. Eh bien, écoute, je suis très fier de te compter parmi les patriotes, Babar, et je te remercie de ton message, de ton gentil compliment sur iTunes. Si vous aussi, vous utilisez iTunes ou une autre app de podcast, comme Podcast Addict, par exemple, qu'on aime beaucoup ici du côté d'Android, eh bien, vous pouvez laisser des commentaires, notamment sur les podcasts que vous écoutez, comme le Rendez-vous Tech. Et si vous appréciez l'émission et que vous appréciez notre travail et la nature de ce qu'on vous raconte, le résumé qu'on vous fait toutes les semaines de tout ce qui se passe dans l'actu tech, qui vous permet de suivre tout ça de manière super facile pendant que vous êtes dans les transports ou en train de faire le ménage ou en train de courir. Eh bien, si vous appréciez tout ça depuis un petit moment, vous pouvez faire un petit tour du côté de patreon.com/rdvtech comme Babar et soutenir à la somme qui vous convient pendant le temps qui vous convient. Et en plus de ça, vous avez des petits bonus comme par exemple au hasard le fait d'avoir cette émission sans pub. Et sans cette partie promo au milieu, vous pourriez avoir accès au flux privé qui vous donne effectivement ce flux super clean. Donc si ça vous intéresse, et il y a d'ailleurs d'autres bonus assez cool comme l'accès à la meilleure communauté du monde, si ça vous intéresse, et ben vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission et vous pouvez y aller quand vous rentrez chez vous. Vous mettez les clés dans le bol et ça fait cling, Patrick. Vous voyez comment j'essaye d'insérer ce moyen mnémotechnique. Technique, ce réflexe de Pavlov, ce réflexe de Patrick dans votre cerveau, vous mettez les clés dans le bol, cling, Patrick, et là vous dites, ah ouais, Patrick, ah, mais il faut que je devienne patriote, et vous allez sur patreon.com/rdvtech. Merci à vous tous, et encore plus merci à tous ceux qui le font déjà, je suis infiniment reconnaissant de votre soutien.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bon alors, on va parler d'un truc un petit peu inattendu. La loi sur la vérification d'âge pour l'accès aux sites pornographiques est en passe d'être votée. Il va y avoir un dernier vote et qui, a priori, devrait devrait faire valider la chose. Et ça pose des questions qu'on n'imaginait pas. Ça pose notamment la question de quel système on va utiliser pour vérifier l'âge. Alors ça, oui, c'est la première question, celle-là, on l'imaginait. Mais du coup, ça réfère à des questions de souveraineté, parce que quand on pense à un système qui puisse vérifier l'âge des citoyens, on se rend compte qu'on n'en a pas et que les systèmes d'identification qu'on utilise jusqu'à maintenant, c'est des systèmes qui sont... étrangers, qui sont américains essentiellement. On parle, alors, encore une fois, des GAFAM, hein, Google, Facebook, etc. Alors, il en existe d'autres, mais visiblement, à Bruxelles, les Européens sont en train de penser à un système d'identification numérique pan-européen, trans-européen, dans toute l'Europe. Et je me demande si ça serait une très bonne idée ou une très mauvaise idée. Je ne suis pas sûr, je crois qu'il y a des arguments forts dans les deux sens, mais je ne suis pas sûr d'avoir la réponse à cette question. Est-ce que ça serait souhaitable, tiens, je vais me retourner vers Cédric du coup, système d'identification européen, système d'identification numérique européen. Bonne ou mauvaise idée?
On a déjà des systèmes de, j'ai envie de dire, des trucs un peu transversaux d'identité numérique, pas comme France Connect, comme voilà, il y a le truc de la Poste, regardez en gros toutes les choses qui vous permettent de vous connecter aux impôts, de vous connecter à l'assurance maladie, enfin voilà. Après, évidemment, l'application au site pornographique me paraît un petit peu compliquée.
On a d'ailleurs exclu la possibilité d'utiliser France Connect pour ce système. Cédric O, si je ne me trompe pas, a explicitement dit on n'utilisera pas France Connect pour ça.
Voilà, ça au moins, il y a un peu de lucidité là-dedans. Maintenant, je pense que l'annonce de la loi, si tu veux, tout à coup, chez des gens, chez tous les fournisseurs de VPN, tout à coup, on a fait sauter les bouchons de champagne. Wow, merci les gars. Bah,
le truc, c'est que les sites de contenu adulte en France doivent déjà se soumettre à des réglementations assez strictes. Et quand ils sont basés en France, ils doivent se soumettre à ces réglementations. Donc, eux, ils ne sont pas forcément mécontents de cette idée, parce que ça voudra dire au moins que les sites basés à l'étranger, ils doivent eux aussi s'y soumettre, et puis s'ils ne le font pas, ce qui est possible, le CSA pourra envoyer une demande à la Cour de justice de bloquer l'accès à ces sites en France aux opérateurs. C'est-à-dire que ça sera...
Souvent par le moyen du DNS, et on revient à la fête chez les fournisseurs de VPN. Ouais. Et de fait, dans l'ensemble, ces sites-là sont parmi les plus vertueux. Alors là, c'est forcément un mot qu'ils n'utilisent pas souvent. Mais en tout cas, sur l'observance de tous les systèmes de contrôle parental, de contrôle d'âge, etc., etc., évidemment, la limite de ça, c'est tant qu'on n'a pas vérifié ta pièce d'identité ou le fait que tu aies une carte de crédit ou tu vois ce genre de choses, on ne peut pas forcément être sûr de savoir qui est derrière. Les seuls de tête comme ça qui fassent des vérifications en live pour vérifier que tu es bien le nom que la personne dont tu donnes le nom, c'est quoi ? C'est les néobanques en ligne, tu vois, les N26 et les autres qui, elles, te font une visio et il faut que tu montres ta carte d'identité. Enfin, truc qui n'a pas de sens dans ce contexte-là et qui surtout n'a pas de sens économique parce que là, ça ne tient pas debout en termes d'économie pour eux. Donc voilà, je ne sais pas comment ça va se régler. On le verra dans le... Alors, avant de dire des bêtises, il faudrait quand même que j'aille lire le texte de loi, enfin en tout cas le texte du projet de loi, parce que ça pose question sur le fait de savoir, est-ce qu'on a déjà des idées de comment ça fonctionnerait dans la vie réelle ? Est-ce que c'est un truc qui a été repoussé ?
Alors moi, de ce que j'ai compris... De ce que j'ai compris, peut-être que je me trompe, mais de ce que j'ai compris, le système est laissé à l'appréciation de l'opérateur du site.
Donc, bravo. Bravo les gars.
C'est démerdez-vous, quoi.
Souvent, c'est ça. Souvent, c'est vrai qu'on pousse du bout du pied dans les assemblées en disant, voilà, les modalités de fonctionnement exactes seront précisées dans un futur décret d'application. le problème, c'est que, voilà...
Ça te laisse le gros problème, on n'est pas...
Au moment d'écrire le texte, à faire de la pensée magique, tu vois, en disant, bon, il n'y a qu'à faire en sorte que ça marche, et puis ça marchera. T'as raison.
On n'est pas les premiers à s'intéresser à ce sujet. En Australie, ils l'ont fait. En Angleterre, ils l'ont fait. Et tous...
Ils ont
réfléchi et presque voté les lois. Dans certains cas, ils les ont votées. Et puis, au moment d'appliquer, ils se sont rendus compte que c'était tellement pas possible à appliquer qu'ils ont abandonné l'idée. Après des débats houleux sur la protection des enfants, machin, ce qui est tout à fait louable comme intention. Mais effectivement, Mélina, tu voulais...
J'ai une question fonctionnelle parce que moi, je suis comme vous, je n'ai pas lu assez le texte pour avoir un avis, mais j'avais entendu quelques trucs dessus. C'est-à-dire que les moyens de vérification... Donc France Connect écarté, Digipost a priori du coup pareil, il parlait vérification par carte bancaire, ce qui pour moi est complètement absurde, ou confier ça à une entreprise tiers.
Par carte bancaire, ça veut dire que si tu as une carte bancaire, a priori tu as 18 ans, ou alors tu l'as avec l'accord de tes parents.
Ou tu en as 16 ou 12,
Enfin, tu vois, c'est absurde. Et surtout, j'ai une question, c'est que, comme tu disais, Cédric, il y a des systèmes où tu vas scanner, flasher ta pièce d'identité, comme tu veux, et là, il fait une détection, ou via le code, l'espèce de code qui est en bas des passeports, pour dire tout de suite, vous avez plus de 18 ans, oui ou non. Un peu comme on peut l'avoir aussi quand on s'enregistre pour un avion. Ça scanne tout de suite ta carte, au moins la réponse est immédiate. Comment est-ce qu'avec le RGPD, ça peut être viable, ce truc-là, et que les gens n'aient pas systématiquement, en effet, à le refaire ? Puisque les données ne doivent pas être stockées. Il y a des gens qui passent leur vie sur les sites porno. Donc, je ne vois pas comment, d'un point de vue fonctionnel, pour le site,
oui.
L'utilisateur, nos données...
Au moins au moment de la création d'un compte.
Ah ben, si tu as créé un compte, c'est autre chose. Mais il faut que tu aies créé un compte sur le site en question.
Enfin, tu vois, c'est...
Il faut que ça bizarre. Ouais, non, mais c'est complètement...
Pour moi, c'est pas viable. C'est encore un truc de... C'est comme les forfaits illimités de tout à l'heure. C'est qu'on fait bonne conscience, mais au final, ça n'entrera jamais en vigueur, quoi.
Bon,
si ça peut pas marcher, de fait, ça peut pas marcher. Mais non, j'ai essayé de réfléchir à haute voix. La carte de crédit, c'est un truc pas mal, ça. Ouais, enfin, ça valide au moins le fait que tu as accès à une carte de crédit de personne adulte. Bon. Et qu'en plus, la personne adulte verra si tu l'as utilisé. Parce que dans le dernier, ça se fait d'une manière très simple. C'est qu'en gros, on te facture un euro qu'on te rembourse après. Mais ça veut dire que ton papa ou ta maman va voir sur sa facture un truc marqué « porn vérification
». Bah, c'est le but. C'est le but. Le but est de dissuader justement l'utilisation si ce n'est pas une personne adulte. Mais surtout, le gros problème, c'est que... personne ne va vouloir le faire, même si quelqu'un voudrait aller sur un site pornographique, je pense que ça tue le modèle. Ensuite, on pourrait débattre du fait que oui ou non, il faudrait tuer ce modèle. Je pense que ça serait un tout autre débat qu'on pourrait avoir ailleurs. Mais,
c'est avec la mort d'Internet, surtout, parce que vu la part de trafic que ça représente...
il ne va pas rester grand-chose. Là, tout à coup...
On
lit les deux histoires. Voilà, on fait baisser la bande passante.
Everybody wins.
Le CNN, le Conseil National Numérique est content, le Parlement est content, tout le monde est content parce que tout à coup Internet, on va tout faire tenir sur un forfait à 2 gigas quoi.
Ça va libérer la bande passante, ça c'est sûr.
Bon bref, on l'aura bien compris, on n'est pas super convaincu. J'espère que, enfin, de temps en temps quand il y a des lois qui ont affaire au numérique qui sont intéressantes, on en parle aussi, donc je voudrais pas que les auditeurs pensent qu'on a que des avis négatifs sur tout ce qui se passe au niveau gouvernemental et légal sur le numérique. C'est juste que là, on a eu une petite série, mais vraiment remonter dans les épisodes précédents, parfois il y a des choses très intéressantes dont on débat les avantages potentiels et les problèmes que ça peut poser. Là, il se trouve que sur ces deux trucs, on n'est pas hyper convaincu.
Oui. Mais bon. Blague à part, on est des parents aussi. Le porno, le libre accès au porno sur Internet pour des adolescents, c'est un vrai problème. Donc il y a vraiment quelque chose à faire. Voilà, on en rigole là parce que la mesure, elle est inapplicable, enfin, soyons clairs. Mais c'est un vrai problème et c'est quelque chose qui mérite une solution. Il faut juste bien la réfléchir et pas faire un peu n'importe quoi avec des grands principes qui n'ont aucune chance d'être appliqués sur Internet aujourd'hui, c'est tout, quoi.
Oui, c'est-à-dire que vraiment, pour conclure... C'est pas l'intention de la loi qui est aussi critiquable. On pourrait en parler de l'intention de la loi, ça serait une autre question. Mais l'intention, a priori, je pense qu'on serait tous d'accord pour dire qu'elle semble louable, étant donné les problèmes que pose l'accès facile à la pornographie, etc. On en a déjà parlé, à l'image de la sexualité que ça donne aux adolescents. Le problème, c'est vraiment, vraiment l'application qui est, comme on l'a dit, difficile à concevoir. Donc, et le fait de faire une loi quand son application est aussi compliquée, et Dieu sait qu'il y a eu des lois dont l'application était pas forcément critiquable et dont on a parlé dans l'émission où on disait oui, mais ça, c'est peut-être possible comme ça, en tordant un petit peu ici, en forçant un petit peu par là, ok, peut-être que ça peut donner quelque chose. Là, en l'occurrence, je vois pas ce qui... Bon, bref. Parlons un petit peu de tech, une petite pause vraiment tech avec un rendu du Pixel 4a qui a été publié par Google, leaké par Google eux-mêmes. Alors, on imaginait qu'il serait publié, qu'il serait annoncé aujourd'hui. C'est le modèle un peu meilleur marché du téléphone de référence de Google, donc le Pixel 4 cette année, enfin l'année dernière. Et le Pixel 4a serait le modèle un petit peu moins cher. On a entre parenthèses aussi Samsung qui devrait annoncer le Note 20 le 5 août. Et Samsung qui pourrait aussi arrêter de fournir des chargeurs comme Apple, dont on parlait il y a une semaine, arrêter de fournir des chargeurs avec ses smartphones. Si on veut parler d'environnement, peut-être que là, il y a des solutions, effectivement. Mais Pixel 4a, Galaxy Note 20, ça va bouger cet été du côté d'Android, du coup.
Bah oui, mais en plus, surtout en attendant, qu'est-ce qu'on rigole avec toutes les fuites hein. Parce que je pense qu'il n'y a pas un jour où on n'a pas... Alors, on se plaignait qu'aujourd'hui, avec Internet et tout, on n'a plus de surprises aux conférences parce qu'on a déjà plein d'infos et tout. Mais alors là, c'est un festival en ce moment. Le Pixel 4a, dont on sait à peu près tout, Enfin, je ne sais pas s'il y a une info qu'on n'a pas dessus. Mais alors là, Google, je pense qu'ils en ont eu tellement marre des fuites qu'ils font carrément le job eux-mêmes. Donc là, comme tu disais, le rendu, c'est quand même a été publié sur le Google Store. Il n'est pas sorti de nulle part. Donc c'était très, très drôle quand même là. Mais je pense surtout, du coup, quand j'ai vu ça hier, je me suis dit que c'était parce qu'on parlait d'une annonce lundi 13, en fait.
C'est ça, c'est ce que tu dis dans ton article. Voilà. On pensait qu'il devait être annoncé lundi, ouais.
Voilà, il est officiel. On attend l'officialisation, mais on sait qu'il existe. Il apparaît dans toutes les lignes de code d'Android. Enfin, c'est plus qu'une question de jours. Et y a une rumeur qui était sortie ce week-end comme quoi, finalement, ça ne serait pas ce lundi. Bah, je crois que chez Google, il y en a un qui avait oublié que ce n'était pas hier, ça devait être publié.
Oui, quand tu prépares tout. Mais du coup, c'est quoi les caractéristiques du 4A ? Est-ce qu'il est... tu peux nous en dire justement, tu peux nous dire ce qu'on en sait ? Techniquement, il est intéressant ?
Alors, bah, tu sais, pour ceux qui ne seraient pas au fait des pixels, donc nous avons les numéros. Pixel 2, Pixel 3, Pixel 4 qui sortent à l'automne, qui sont des flagships, donc vraiment les modèles haut de gamme. Et les versions A, qui existent depuis le 3A, donc de l'année dernière, c'est, comment dire, c'est la base, c'est le même module photo, a priori, sauf que là, bah, il n'aurait qu'un seul capteur et pas deux, avec un peu moins de design. C'est des appareils qui sont un peu plus plastiques, qui ont un processeur qui est un peu moindre. En fait, là, ce serait du Snapdragon 730. Et si je me souviens bien, on doit être sur du 755, Snapdragon 755 de Qualcomm sur le modèle 4A. Donc, c'est vraiment les versions allégées, en fait, des pixels de Google du très haut de gamme. Ils sont un petit peu moins autonomes, mais l'essentiel, c'est-à-dire ce qui fait la renommée des pixels, c'est la photo. La promesse, c'est que ce soit la même. Alors, on sait qu'il y a une grosse partie software sur le Pixel par rapport au hardware. C'est pour ça que les modèles précédents n'avaient qu'un seul capteur photo, ils sont passés à deux capteurs sur le Pixel 4. Voilà. Leur promesse, c'est d'avoir sur un tronçon de prix qui est entre 300 et 400 euros à peu près, le meilleur photophone du marché.
Donc, et effectivement, la grande qualité des Pixels, des téléphones Pixel de Google, c'est qu'ils font avec moins d'objectifs des photos qui sont aussi bonnes ou meilleures que les concurrents avec plus d'objectifs. Donc, ils réussissent en logiciel à simuler avec le traitement de l'image, voilà, à faire des images de grande qualité. Et donc, on est sur cette fourchette de prix de 300 à 400 euros, ouais, qui est, pour cette qualité, on est okay.
Voilà, c'est ce que tu dis, c'est exactement ça, c'est l'IA, en fait. Alors, c'est un choix de photo. Moi, je sais que je suis plus adepte des photos plus naturelles. Le résultat est magnifique, hein, sur un pixel. Je trouve que ça manque un peu de naturel parce que c'est l'IA qui fait la retouche pour vous, voilà, en quelque sorte. Mais sur cette gamme, sur ce marché, avoir un appareil de cette qualité, c'est assez rare. Il n'aura pas de version XL cette fois. Vous savez, il y a deux tailles d'écran en général. Ouais. Là, ils n'en auront pas. Mais par contre, ce qui a été débusqué pareil dans le code le week-end dernier, c'est une version 5G. Donc, un modèle allégé, donc 4A, en 5G. Donc, ça va donner un prix vraiment pour avoir accès à la 5G qui sera super intéressant, à mon avis, signé Google. Donc, affaire à suivre. Mais voilà, ça fait partie des choses qui leakent, dont on sait tout, en fait. Il n'y aura pas de surprise.
Bon. Petite série de news sur du hardware, justement, enfin du hardware, encore de la tech. Nvidia a dépassé en valeur boursière Intel. Ils sont à 248 milliards de dollars. Ils ont eu une augmentation de leur valeur boursière de 68% cette année. C'est quand même symbolique que Nvidia dépasse Intel en valeur boursière, c'est incroyable. Nvidia, alors ils ont fait énormément de choses pour diversifier leurs offres, pour se renforcer ces dernières années, et ça paye, mais c'est en même temps un petit peu tragique pour Intel, qui était le géant inassailable, je ne trouve plus le terme français, inassaillable.
Inattaquable, indépassable, impossible à rattraper. Et c'est vrai, ça l'a été pendant très longtemps. Moi, ça me rend très triste parce que j'aime beaucoup Intel, et puis parce que Intel, c'est quand même... Intel, c'est une brique de toute l'histoire de la Silicon Valley. Enfin, il y a plein de raisons qui sont à la fois historiques. Intel, pendant longtemps, ça a été le plus gros investissement mondial en R&D. C'était 10 milliards par an. Enfin, donc voilà. Et puis c'était une époque en plus où je les suivais d'assez près. Donc Nvidia est une boîte absolument géniale. Mais c'est vrai que oui. Enfin, on voit quand même qu'Intel paye quelques erreurs stratégiques majeures. Et c'est un peu triste, mais voilà, ça n'enlève rien au succès d'Nvidia. Nvidia qui, depuis le début, fait des trucs absolument ahurissants et puis avec une stratégie très déterminée. Très, enfin, voilà, c'est une super boîte.
Ça paye, quoi. Et Intel, justement, puisqu'on en parle, ils ont détaillé le Thunderbolt 4, dont je pense que la 99% d'entre vous n'a rien à faire. Ce dont vous avez quelque chose à faire, c'est l'USB 4. Alors, qu'est-ce que c'est que l'USB 4? On commence à en entendre parler. D'une part, ça utilise le même port que l'USB 3, donc on a ce mini USB-C qui sera enfin, qui va encore plus se généraliser. Et toutes les protocoles du Thunderbolt 3 seront utilisés dans l'USB 4. Ce qui veut dire qu'il y avait une grande confusion entre l'USB 3 et le Thunderbolt parce qu'ils utilisaient le même port, mais il n'y avait pas les mêmes données qui pouvaient passer dessus. Et bien maintenant, l'USB 4 fera tout ce que fait le Thunderbolt 3. Et là, vous me dites, mais attends, il y a le Thunderbolt 4 qui arrive. Qu'est-ce que ça va changer? Et bien, en fait, le Thunderbolt 4 sera compatible avec l'USB 4. Donc, ça sera la même chose là encore. Donc, plus de confusion. Sauf que un label Thunderbolt 4 veut dire qu'ils utilisent des certifications Intel et que donc, on a des certifications qui sont plus sévères que sur les composants grand public. Donc, en gros, là encore, pour 99% des gens, ça n'a pas grand intérêt de savoir quelle est la différence. Ce qu'il est important de retenir, c'est l'USB 4, maintenant, ça fait tout. Donc, on est tranquille. Alors, ça ne veut pas dire que tous les câbles font tout. Là, c'est encore un autre problème, mais au moins, les ports...
Ça, on l'observe quotidiennement. C'est, Moi, j'ai été frappé encore il n'y a pas longtemps, tu vois, pour brancher un petit disque dur externe SSD sur mon MacBook, là. Je mets un câble USB-C, je drag-drop des fichiers, des grosses vidéos, etc. Je dis, mais comment ça, 72 minutes, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et je change le... Et si tu veux, j'ai essayé trois câbles différents et qui m'ont donné trois résultats différents en termes de débit. Et c'est là que tu vois que oui, il se passe des trucs et qu'il y a besoin d'un petit peu de clarification. C'est un peu comme si on disait, regardez, maintenant, on a une prise unique qui est celle du 220 volts, mais que parfois, tu te branches dessus et il y a du 12 volts qui sort et tu dis mais je ne comprends pas, pourtant je crois, voilà. Donc tout ce qui va permettre de résoudre cette confusion sera le bienvenu.
Alors la clarification pour les câbles, elle pourra arriver un jour, ça serait souhaitable, mais en tout cas au moins maintenant, les ports USB 4, c'est USB 4 et c'est tranquille, et tout marche avec USB 4 pour les ports. Les câbles, on verra plus tard. Facebook a annoncé qu'il serait en train de considérer l'idée de bannir les publicités politiques sur son réseau au moment des élections, quelques jours avant les élections. Et alors, c'est un petit peu n'est-ce pas trop tard quand c'est quelques jours avant les élections? Il y a un autre élément qui est intéressant à noter chez Facebook et la publicité chez Facebook. Une étude montre que la campagne de Donald Trump micro-cible beaucoup plus que celle de Joe Biden. Et le chiffre, 68% pour Trump et 34% pour Biden, le chiffre, le pourcentage est intéressant. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est le nombre de fois que ces publicités micro-ciblées sont vues. On parle d'une publicité qui est vue moins de 1000 fois. 68% des publicités sur Facebook de Trump sont vues moins de 1000 fois. Et Dieu sait qu'il y a des centaines et des dizaines de milliers de publicités différentes, mais elles sont vues, elles sont tellement ciblées qu'elles sont ciblées sur moins de 1000 personnes. Alors, on est à 34% chez Biden. Mais rendez-vous compte à quel point c'est ciblé.
C'est un peu exactement ce qu'ils avaient fait la dernière fois, tu vois.
Moi, j'avais pas vu ces chiffres, tu vois.
Cambridge Analytics et tout ça. Mais c'est évidemment intelligent de leur part et ça fait toujours un peu peur. Et c'est aussi pour ça qu'il faudrait que Facebook siffle la fin de la récréation plutôt que de nous dire pour la 74e fois qu'ils feront mieux la prochaine fois. Tu vois, we'll do better next. Moi, j'en peux plus. Ça y est, c'est fini. Ce truc est un cancer de la démocratie. Il faut arriver à en venir à bout d'une manière ou d'une autre. Et si tu veux, quand ils nous disent que c'est un enjeu de libre expression, alors qu'ils sont dans un pays où, pour l'essentiel, il y a deux partis et pas plus, il faut quand même, à un moment, arrêter les conneries. Moi, je n'y crois plus. C'est-à-dire que c'est terminé. Il faut qu'ils sortent de ça de manière définitive et qu'ils arrêtent de nous dire qu'ils sont un moteur de la liberté d'expression. Ils ont quand même réussi à faire élire Trump une fois déjà. Et si par hasard ils y arrivaient une seconde fois, ce serait quand même pas à mettre dans la colonne positive. Donc voilà. Et si tu veux le théâtre de la pantomime de Mark Zuckerberg ou Sheryl Sandberg qui arrive en disant oui mais nous allons faire mieux la prochaine fois. Même Sheryl Sandberg maintenant elle vient à reculons. Alors que pourtant Dieu sait qu'elle a quand même été l'excuse. Moi, j'en peux plus. Alors, c'est amusant parce que c'est des trucs qui sont pas très visibles chez nous. Chez nous, on a que des pubs de dropshipping sans intérêt. Tu vois, ça va pas très très loin. Mais chez eux, ça va quand même très très loin. C'est terrifiant, et que ces gens-là soient toujours pas arrivés à apprendre au moins un tout petit peu d'éthique. C'est moi, ça me révulse, quoi. Donc voilà. Je vous conseille un truc, et c'est amusant parce que à cet instant précis, j'ai une notif qui tombe sur mon Mac. Allez voir, si vous ne l'avez pas déjà fait, les pubs sur YouTube du Lincoln Project. Le Lincoln Project, c'est une espèce d'alliance de communicants politiques, mais c'est des républicains, hein, mais qui, eux, sont déterminés à faire en sorte que Trump ne soit pas réélu. Et du coup, ils utilisent contre Trump ce que sont d'ordinaire les armes des républicains en termes de pub négative. Et allez voir ça s'appelle le Lincoln Project sur YouTube. Et surtout, ils sortent une pub par jour. Et elles sont remarquables. Mais remarquables. En gros, c'est des républicains qui vous disent votez Joe Biden. Et y en a une en particulier qui est génialissime et qui est une pub qui est faite pour parler à Trump et uniquement à Trump, et qui dit: Donald, tu sais que les gens autour de toi complotent. C'est génial. S'ils sont en train de parler à un paranoïaque total. Oui, les gens parlent dans ton dos et organisent machin. C'est voilà. Et allez voir les pubs, c'est génial. Moi, je trouve ça magique. Pour un pays qui est de toute façon dans une merde profonde à peu près à tous égards aujourd'hui.
Écoute, je ne suis pas forcément pas d'accord avec toi, mais je te laisse la paternité de ces commentaires-là. Moi,
je ne suis pas forcément pas d'accord, hein, qu'est-ce que c'est cette double négation.
J'obscurcis mon opinion.
Oui, we don't need no education, yes you do.
Mais c'est complètement logique ce que je dis. Mais le chiffre que je donnerai à retenir aux gens, c'est 68% des pubs de la campagne Trump sur Facebook sont vues moins de 1000 fois. C'est édifiant comme chiffre. Et si on veut un exemple du bon boulot que fait le gouvernement américain, Apple a annoncé à ses staffs d'Apple Store, pardon, pas que d'Apple Store, son staff tout court, qu'ils ne réouvriraient pas leur bureau avant 2021 minimum. Et ce qui est en train de se passer aux États-Unis, c'est assez édifiant. Nous, on se bat en Europe avec nos gouvernements pour savoir qui a géré quoi, comment. Quel que soit votre avis là-dessus, je peux vous assurer que comparé à ce qui s'est passé et ce qui se passe encore aux États-Unis, on a tous A ou A+, hein, sur notre carnet de notes. Comparé à eux, c'est... Je ne sais pas si tout le monde qui nous écoute suit ce qui se passe aux États-Unis.
Nous, on a tous 18 sur 20. Hein,
C'est invraisemblable. Et enfin bon, c'est pas qu'on a tous 18 sur 20, c'est qu'eux, ils ont 4, quoi. Ou 3, ou 2.
C'est terrifiant. Moi, j'ai des amis qui se demandent s'ils doivent rentrer aux États-Unis. J'ai des amis français qui habitaient là-bas qui, d'un coup, se sont auto-rapatriés en France en disant non, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on se sent plus en sécurité à nombre d'égards, et c'est pas qu'une question de Covid. Ils veulent forcer les écoles à réouvrir, alors qu'on sait que dans leur cas et dans le cas de plein d'États, faut pas oublier que c'est un État fédéral, donc en fait c'est pas une réalité. Les États-Unis, c'est 50 réalités, il y a toutes les villes, enfin c'est compliqué. Mais il y a pas un État fédéral qui est même capable de définir les règles en disant: si vous êtes dans cette situation sanitaire là, vous allez faire comme ça. Si vous êtes dans cette situation ci, vous ferez comme ci. On se plaignait en France de pas avoir des mesures plus détaillées et plus, tu vois, différentes selon la situation précise, ville par ville, région par région. Chez eux, c'est pire. Et chez eux, c'est terrifiant. C'est-à-dire qu'on est dans l'idiocratie la plus terrible.
C'est-à-dire
où la situation sanitaire devient juste un enjeu politique de plus à rajouter dans une campagne qui était déjà quand même à un niveau à la limite du Monty Python, quoi.
Plus que ça. On va pas faire trop trop longtemps là-dessus, mais je pense que c'est un sujet qui touche à la campagne sur Facebook. Enfin, il y a un lien, même s'il est ténu. Pour ceux qui ne savent pas, aux États-Unis, la courbe des nouveaux cas est montée à son maximum fin mars. Et ce n'est pas comme dans tous les autres pays du monde où elle est redescendue. C'est qu'elle est restée à peu près stable, et vers la mi-juin, elle a commencé à remonter. Et on a plus de cas aujourd'hui par jour que jamais dans l'histoire des États-Unis. Évidemment, ça va mener à... Même s'ils soignent très bien leurs malades, ça va mener à plus de morts. Et l'une des choses qui est terrifiante, et la raison pour laquelle on est, je pense, si remonté contre Trump, une des nombreuses raisons, c'est que Trump a complètement politisé la question de la sécurité sanitaire. C'est-à-dire qu'il a monté les uns contre les autres, les gens qui sont pour le port du masque et contre le port du masque. Et ce n'est pas un sujet de... Alors avant, on nous a dit que c'était pas bien, et maintenant, pour des raisons de disponibilité, etc., et maintenant, on nous dit qu'il faut les porter. Il se refuse à le porter en public, il met des éléments pour motiver. Ce qui fait qu'aux États-Unis, il y a, c'est pas une vidéo qu'on voit de temps en temps sur Twitter où quelqu'un dit « Oh, mais moi, je ne vais pas porter le masque !» Et on se dit « On en a dans tous les pays. » Non, c'est devenu une position politique violente des républicains pro-Trump de ne pas porter le masque dans un pays où on a des dizaines de milliers de nouveaux cas par jour. C'est invraisemblable ce qui est en train de se passer là-bas. Donc, bref, voilà. Moi, je referme... Enfin,
accessoirement, dans quelques semaines, la Convention républicaine va se tenir, où ça, à Jacksonville, en Floride, où ils sont, de toute façon, dans les tréfonds du... Enfin, tu vois, non, c'est délirant. C'est-à-dire que c'est
on est dans une situation où il y a deux mois, on se disait, bon, bah, ok, ça commence à mieux aller, machin, je sais pas quoi. Là, c'est ce dernier mois, deux derniers mois, on est vraiment dans un truc qui est enfin je sais pas, on est dans les tréfonds de l'inimaginable. Dans aucun autre pays au monde ça se passe de cette manière, et les Américains s'en rendent même pas compte. C'est enfin bon, bref.
Ah, je pense qu'ils s'en rendent compte.
Je pense qu'ils s'en rendent pas tous compte. C'est ça.
Quand t'arrives à près de 70 000 nouveaux cas par jour, que tu as des mômes, des ados qui s'éclatent à faire des Covid parties pour voir qui va l'avoir, et que là, je pense qu'il y a eu un mort, enfin, mais ça ne va pas leur servir de leçon. Je pense que dans ce pays qui est tellement fracturé, je ne sais pas dans combien de temps ils vont s'en remettre. Et économiquement, ça va finir par tomber, parce que tu ne peux pas fermer toutes les entreprises comme ça en permanence. Parce que même si lui veut rouvrir des entreprises, rouvrir des écoles, il y en a plein qui sont fermés, qui ont pris la responsabilité de fermer, et qui tournent à minima, quoi. Je ne sais pas comment ils peuvent s'en remettre. Déjà, socialement, le pays est beaucoup trop coupé en deux, encore plus qu'avant. Mmh. Et ça, déjà, ils vont quand même avoir du problème. Et quand tu vois exactement, comme disait Patrick, dans les conseils municipaux où les pro-Trump arrivent, retirent leur masque, invoquant
le premier amendement,
crachant limite à la gueule des autres en disant « Voilà, comme ça, vous allez voir si vous l'attrapez. » Ou quand on voit cette vidéo complètement absurde de la nana à laquelle on refuse l'entrée dans un magasin parce qu'elle n'a pas de masque et qui lèche la vitrine quand même. Enfin, on en vient.
Non, mais c'est ça qui est terrifiant. Et bon, vraiment, on va avancer, mais ce qui est terrifiant, c'est qu'il y a, par le silence et par le manque de préparation à la gestion de crise de Trump et par son incitation à cette division, il y a, comme dans tous les pays du monde, on a vu des gens qui disent « Ah, moi, je ne veux pas porter de masque ». Là, on est dans une opposition politisée de cette question de... et ce n'est pas juste... On peut avoir des avis sur Raoult, on peut avoir des avis sur la chloroquine, on peut avoir des avis sur le port du masque qui a été déconseillé, conseillé ensuite, la gestion de la crise par les différents gouvernements, en France ou ailleurs, on peut avoir des avis sur plein de choses là. Ça n'a aucun rapport avec le désastre qui est en train de se produire aux États-Unis. C'est vraiment... Enfin bon, bref. Je disais ça pour qualifier les choses dont tu parlais, Cédric, par rapport à Trump et par rapport à son usage de Facebook. On s'est un petit peu éloigné du sujet, mais Mélinda, je t'ai interrompu, donc je te laisse terminer et puis on va avancer.
Non, justement, je disais, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus sur le... Moi, je pense d'un point de vue purement économique... Nous, ce qui nous intéresse sur la tech, parce qu'on s'est plaint en France d'avoir trop d'informations. On avait un point tous les soirs sur l'avancée. Eux, ils n'ont rien eu. Donc, ils n'ont aucune visibilité de ce qui les attend, les Américains. À part l'élection en fin d'année, tout le reste, tous les jours, tous les chiffres qui tombent, le chômage, la baisse de l'économie, enfin, il y a une économie qui va s'écrouler. Les GAFA ont géré, comme tu dis, ils ont mis tout le monde chez eux jusqu'en 2021. Les Google, les Facebook, Twitter, tout le monde... C'est aussi des salariés qui vont être impactés psychologiquement. Donc, moi, j'attends de voir comment toute cette économie, l'économie de la tech aussi, qui met tout le monde en télétravail, va s'en remettre, parce qu'il y a une étude, je ne sais pas si vous l'avez vue, qui a été publiée par Microsoft quand ils ont fait leurs annonces sur Teams. Ils ont expliqué l'impact psychologique du télétravail, en fait, sur les gens. C'est très bien, tout le monde a rigolé. On a eu beaucoup de Zoom, de Skype, pour faire de plus en plus de réunions de loin. Mais en fait, les réunions à distance comme ça, ça pèse moralement sur les gens. Tu as soudainement ton travail qui vraiment entre chez toi. Et en fait, ils se sont aperçus que toutes ces réunions, donc rendues beaucoup plus faciles.
Je vous confirme que ça change les choses.
Voilà, rendues plus faciles par la technologie, finalement, elles ont un impact extrêmement négatif sur la qualité du travail derrière. Et tout ça, ça va être des choses à gérer, à apprendre à gérer, parce que c'est bien, on est content, tout le monde peut faire du télétravail plus facilement, mais les impacts psychologiques sur les gens et donc les conséquences que ça peut avoir sur le travail, moi, je ne suis pas aussi optimiste, en fait, que toute cette technologie nous le permet.
C'est voilà, compliqué. C'était ma note négative. C'est compliqué parce qu'on ne sait pas, en fait, encore ce que c'est que le vrai télétravail. C'est-à-dire qu'on a été dans une espèce d'expérience contrainte et pas ou peu préparée quand même dans l'ensemble, sauf dans les quelques boîtes où ça se faisait déjà de manière courante. Donc, moi, pour avoir goûté pendant les deux dernières semaines de juin, si tu veux, à une sorte de télétravail où tout à coup mes enfants étaient à l'école, par exemple, c'était quand même une énorme nouveauté, tu te dis, ah oui, d'accord, donc en fait, il y a un mieux. En plus, pendant ce temps-là, les outils, les trucs qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas, ce sont un peu... Enfin, voilà. Mais on n'a pas encore vraiment goûté, j'ai envie de dire, au vrai télétravail. On verra ce que ça donnera. Mais j'étais en train de regarder pour finir sur les États-Unis. Tout ça ne nous dit pas ce qui va se passer pour CIS de janvier prochain.
Non, mais là, je crois...
Amener des gens de 92 pays à Las Vegas.
Non, mais c'est ça qui est terrible. Nous, on est en train de pas de voir le bout, parce que évidemment, c'est une illusion de se dire qu'on est en train de voir le bout. C'est que on est en train de commencer à maîtriser un petit peu la situation, et peut-être qu'elle nous échappera des mains. Mais pour le moment, on est clairement sur un niveau de maîtrise qui est beaucoup plus important qu'au moment de l'explosion de la pandémie. Aux États-Unis, c'est en train d'aller de pire en pire, et alors que ça n'a jamais été mieux. C'est ça qu'il faut. Et donc, pour répondre à la question sur le CIS, c'est pas juste le CIS. Là, on est parti sur encore au minimum 6 mois où personne ne peut rien faire, à moins que... Enfin, moi, je vois jusqu'à l'élection, je vois pas comment les choses peuvent aller mieux parce que le gouvernement fédéral fait pas ce qu'il faut. Alors, ils font des petits trucs. Je suis sûr qu'il y a des gens complètement affolés dans les agences qui sont en charge de ces choses, qui essayent de faire ce qu'ils peuvent. Il y avait d'ailleurs des recommandations, c'est, je crois, le CDC qui faisait des recommandations, comment faire si vous êtes dans tel état, dans tel... county, si vous avez tel et tel chiffre, machin. Mais enfin, quand le président fait le boulot clownesque qu'on lui connaît, clairement, si on est jugé par ses résultats, il n'y avait pas eu de gros effets de l'incompétence de Trump jusqu'à maintenant. Il y avait eu des petits effets, mais en gros, l'appareil américain tenait parce que le président a finalement relativement peu de pouvoir de changer les choses rapidement. Aujourd'hui, avec cette première crise qui a été clairement très mal gérée aux États-Unis, on en voit les conséquences. Et pour revenir à la question du CIS, pour moi, les conséquences, c'est que les États-Unis ne vont pas s'en sortir avant au minimum plusieurs mois et peut-être plus. Donc le CIS, évidemment que non. Je ne vois pas comment, là, dans 6 mois, ils seraient prêts à rouvrir les portes d'un CIS. Quoi.
T'imagines, le CIS, c'est la dernière fois que j'ai pris l'avion. C'est longtemps. Hein.
Wow. Mais le pire, c'est que nous, ça commence à aller. Nous, tout le reste du monde, c'est ça qui est édifiant et qui est extrêmement frustrant. Tout le reste du monde, on commence à différents niveaux à savoir comment gérer la chose. Ça ne veut pas dire qu'on est sorti d'affaires, encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais on commence à savoir plus ou moins comment gérer la chose. Aux États-Unis, ils sont vraiment politiquement en train de se battre entre eux, est-ce que le masque est utile ou pas ? Et non, plus que ça, j'ai le droit, parce que, premier amendement, de ne pas porter de masque et de rentrer dans les lieux publics sans masque. C'est... Enfin bon, bref.
C'est aberrant. Non mais je pense que je suis moins optimiste que toi. Je pense qu'avant 2022, rien ne reprendra normalement aux États-Unis.
Normalement, non, c'est sûr. Oui.
Ils vont. Alors le CES, ouais, c'est mort. Toutes les autres présentations, c'est.
Non mais ça tiendra du délire. Le pire, c'est que 2021, janvier 2021, si c'est pas Trump qui est à la Maison Blanche, en quelques mois, ça peut être réglé, je crois. Moi, vraiment, je crois que ça peut être réglé. S'il y a quelqu'un,
c'est compliqué parce que je rappelle, c'est un État fédéral, donc l'essentiel de ce qui se passe, État par État, est géré par les gouverneurs, par les assemblées locales. Il y a quand même, la décentralisation, c'est un truc qui existe pour de vrai chez eux.
Ouais,
donc, en fait, sur le papier, le président a du pouvoir, mais c'est quand même extraordinairement limité. Le pouvoir, en fait, il est concentré au Congrès et dans les États.
Non, il a un pouvoir de nuisance.
En l'occurrence,
avec la Chine, c'est d'avoir fermé. Ça a quand même été le premier pays qui a fermé ses frontières à l'Europe, n'oubliez pas. Actuellement, nous, évidemment, on interdit aux Américains de venir, mais ça a été les premiers à dégainer, à fermer leurs frontières.
Ce qui n'était pas une mauvaise chose à ce moment de la crise.
Bien sûr que non, c'est la gestion derrière qui était catastrophique. Oui.
Bon, bref, écoutez, si ce sujet vous intéresse, on a déjà fait assez long dessus, vous pouvez aller écouter The Phileas Club, et c'est un podcast en anglais que je fais avec des gens de différents pays. Peut-être que vous y trouverez de quoi alimenter vos conversations également. Allez, on va conclure sur un petit peu de tech. D'une part, le Battery Day de Tesla va arriver en septembre, et ça, je suis sûr que ça fait sauter de joie Cédric. On ne sait pas exactement ce que va annoncer Tesla, mais dans les
Moi, je peux tout te dire.
Vas-y, dis-moi.
J'ai le dossier devant moi. Non, je plaisante, je ne sais pas tout.
Cédric ?
Écoute, en fait, au lieu de, j'allais dire, d'essayer d'acheter une Tesla l'année dernière, parce que c'était quand même un épisode de courte durée, j'aurais dû acheter des actions. Parce qu'évidemment, elles étaient... Mais c'est vrai, elles étaient à quoi, 200 $, je crois, à l'époque. Aujourd'hui, hier soir, elles étaient à 1 700. Donc je ne raconte pas la voiture que j'aurais pu acheter avec le delta entre les deux, hein. C'est-à-dire que voilà, en mettant 30 000 euros, non, je ne veux même pas y penser ça. En fait, plutôt que d'acheter des voitures chez Tesla, il vaut mieux acheter des actions pour l'instant. Je ne sais pas jusqu'où et combien de temps ça durera, mais en fait, souvenez-vous, il y a 2 ans, 1 an et demi, ils avaient fait ce qu'ils appelaient Autonomy Day, qui était le jour où ils avaient dévoilé leur nouvelle plateforme. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont leur propre silicone, leur propre puce pour gérer toutes les fonctions de conduite autonome. Ils ont leur propre carte, leur propre ordinateur, en fait, voilà, fait maison, parce qu'évidemment, leur grand cheval de bataille, c'est l'intégration verticale. C'est de dire, pour être un constructeur automobile viable demain, il faut maîtriser cette technologie de bout en bout, sinon vous n'êtes qu'une sorte d'assembleur de PC, vous voyez, qui achète un disque dur d'un côté, un moniteur de l'autre, une carte mère et de la mémoire. Et ça, c'est pas pour eux, en tout cas, c'est pas un métier viable. Du coup, évidemment, l'enjeu pour eux, c'est de maîtriser tous les éléments de la chaîne. Et alors, il y a l'autonomie d'un côté, mais évidemment, sur l'électrique, l'un des éléments les plus importants, c'est les batteries. Alors, l'état des rumeurs jusque-là, il y a deux choses en termes de bénéfices, et je n'irai pas beaucoup plus loin. Il y a, parmi les choses qu'ils pourraient annoncer, il y aurait un truc qui serait bénéfice utilisateur, c'est une batterie qui dure jusqu'à 1 million de miles, c'est-à-dire 1 500 000 km. Dure, ça veut dire qu'il ne perdrait pas plus de 20% de sa capacité de charge sur cette distance-là. T'imagines, pour faire 1 600 000 km.
Aujourd'hui, on est à combien ? Est-ce que tu peux nous rappeler, aujourd'hui, on a quel type d'autonomie, de durabilité ?
C'est compliqué parce que, en gros, aujourd'hui, ils garantissent leur batterie 8 ans. Mais ça veut tout et rien dire. Ce qu'on a jusque-là, c'est des données empiriques, c'est-à-dire des possesseurs de Tesla qui vont remplir des petites cases dans un spreadsheet, dans une feuille de calcul partagée, pour dire voilà, ma voiture a tel âge, la batterie a tel âge, et j'ai fait tant de kilomètres, et voilà l'état de capacité de la batterie, pour voir comment est-ce que ça baisse, sur combien de temps. Bon, en fait, ça baisse extrêmement lentement. C'est-à-dire que on a décidé de manière empirique et arbitraire de dire qu'à partir du moment où une batterie a perdu 20% de sa capacité, il faut en changer. C'est pas vrai, en fait, tu peux la garder bien plus longtemps, mais peu importe. C'est pour dire que, évidemment, tu as acheté une voiture avec une capacité de charge X, t'as pas envie forcément que ça descende trop, mais pour arriver là, déjà aujourd'hui, il faut arriver à faire plus de... C'était combien ? Je crois que c'était 600 000 km, 700 000 km. Enfin, ça fait quand même beaucoup, hein, pour une voiture personnelle. Voilà, la promesse de demain, c'est d'arriver à avoir une batterie qui dépasse le 1 000 000 miles, et idem pour tout le bloc moteur, en gros, c'est-à-dire le moteur électrique, etc. etc. Parce que c'est l'un des enjeux de croissance de la voiture électrique. Souvenez-vous, hein, depuis le début, les gens disent oui, mais alors l'autonomie, t'imagines, moi, si je peux pas aller à Deauville, enfin bon, bref. Donc ça, ce serait un problème réglé côté utilisateur. Et puis l'autre rumeur, c'est un changement dans la composition des batteries, parce que les batteries, c'est de la métallurgie. Hein,
Excuse-moi, tu dis pour aller à Deauville, là tu parles de la durabilité de la batterie, mais pas de l'autonomie du véhicule, combien de kilomètres il peut faire avant d'avoir à recharger. C'est deux questions différentes.
Ah ben ça dépend de combien de batteries tu mets dans la voiture.
Ouais.
Mais là aussi, il y aura un gain d'efficacité, comme on l'a vu, mais de manière constante. Hein. Sur tous les modèles de Tesla les uns derrière les autres, où à chaque fois, avec moins de batterie, tu vas plus loin. Mais c'est un truc qui est multifactoriel, parce que ça tient aussi au poids de la voiture, ça tient à plein de choses. Donc on attend, il y a plein d'annonces, hein, sur les modèles à venir, sur le Cybertruck que moi j'ai précommandé, sur le Roadster que j'ai pas précommandé parce que j'ai pas 250 000 dollars à foutre dans une voiture, faut être sérieux quand même, et puis parce que j'ai pas besoin d'une fusée, mais où ils annoncent des distances, où ils annoncent plus des capacités de batterie. Donc on verra avec quelle capacité de batterie tu vas à quelle distance. performance, mais ça tient aussi justement à ce qu'ils vont probablement dévoiler au moment du Battery Day. Et l'autre chose que l'on attend, ce sont des batteries dont la composition aurait changé, par exemple, pour ne plus, ou pour en tout cas beaucoup moins dépendre du cobalt. Parce que le problème pour l'instant des batteries, c'est le cobalt. C'est pas le temps de lithium, parce que le lithium, c'est un sel. Alors, il y a des mines en Amérique du Sud, en Chine et ailleurs, mais si on décidait demain d'avoir des mines de lithium en France, c'est-à-dire que si d'un coup il y avait une économie, un marché pour qui ait besoin de plus de lithium, on pourrait avoir des sources locales de lithium et arrêter de dire oui, mais c'est parce que les batteries, c'est les Chinois. Ben non, les batteries, ça pourrait être les Français et les Européens demain. Le cobalt, c'est plus compliqué parce que ça s'est quand même concentré dans des États d'Afrique comme le Congo, où il y a quand même des vrais problèmes. Pas tant de travail des enfants organisé, mais de familles qui vont chercher du cobalt toutes seules et qui le revendent un peu. Souviens, c'est un truc de chercheur d'or, quoi. Mmh. Et ça pose des vrais soucis, surtout dans des pays qui sont pas des oriflammes de la démocratie, tu vois. Et donc arriver à utiliser moins ou plus de cobalt dans les batteries est un véritable enjeu pour demain, et ça fait partie des annonces qu'on attend pour ce Battery Day. Mais il y aura plein d'autres choses. Et c'est des choses qui motivent aussi le fait que l'action soit montée en flèche. C'est que justement, non seulement ils maîtrisent cette technologie-là, mais que visiblement, ils ont quelques longueurs d'avance sur leurs concurrents.
Eh bien écoute, 22 septembre, lendemain de mon anniversaire, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Deux petits sujets, allez, très rapidement pour terminer. D'une part, je parle parfois de services intéressants. Je vous parlais de Cameo il y a quelques temps pendant le confinement. Vous pouvez aller retourner voir de quoi il s'agit. Peut-être que vous ne connaissez pas Fiverr, et ça, c'est un service qui existe depuis très longtemps. C'est un petit peu la gig économie ultime. C'est un site sur lequel on peut payer. Alors, à la base, c'était Fiverr pour 5. On peut payer $5, mais aujourd'hui, le prix est libre à quelqu'un pour qu'il ou elle fasse quelque chose. Et ça s'est réorienté sur les travaux qu'on peut faire sur Internet, donc des trucs soit artistiques, soit de bureautique, etc. Et on recherche une tâche à faire et on voit des offres de différentes personnes qui vont vous proposer, vous décrire un petit peu leurs capacités, ce qu'ils peuvent faire, et ils vont vous donner différentes gammes de prix. On va vous dire combien de révisions ça inclut, quel type de boulot ça peut concerner. Et vous allez discuter avec la personne et elle va vous faire le projet et vous payer ensuite. Alors, c'est des sommes qui peuvent être relativement modestes. Ça va de quelques dollars ou euros, quelques dizaines de dollars jusqu'à quelques centaines, on va dire. C'est vraiment la gig economy. Et le service en lui-même est hyper intéressant. Alors, moi, je l'ai essayé pour un truc spécifique. Je peux vous dire que le résultat, je l'ai pas utilisé, c'était pas très cher, mais c'était pas super qualité, j'aurais pu payer plus pour avoir un truc plus correct. C'était pour des bannières pour certains épisodes que je voulais mettre en avant sur une plateforme, et le résultat était pas super, j'ai fini par aller vers quelqu'un qui était un professionnel, qui m'a évidemment fait payer un petit peu plus cher, mais le résultat était à la hauteur. Mais donc Fiverr, c'est quand même un truc très intéressant, et il y a un article qui explique comment de nombreuses marques sur Instagram utilisent Fiverr pour faire rédiger des commentaires, pas des commentaires, mais des descriptions de photos à des gens qui vivent au Pakistan, au Bangladesh, etc. Qui demandent des sommes évidemment modestes et qui vont écrire des, des descriptions qui sont peut-être pas au top du top, ou peut-être qu'elles sont très bien, je sais pas. Mais l'article est super intéressant et ça m'a permis de vous parler de Fiverr. Si vous ne le connaissiez pas, c'est un site à connaître pour la culture générale Internet, on va dire. C'est vraiment un truc...
C'est fascinant ce que tu arrives à faire sur Fiverr. Il y avait, je me souviens, un YouTuber qui l'a fait. Alors, il se trouve que c'était un truc sponsor par Fiverr, mais en gros, Fiverr lui devait donner un crédit en disant, voilà, essayez le service, dites-nous ce que vous en pensez. Et il avait fait un truc très drôle, c'est qu'il avait pris, tu vois, des images prétexte de pizzeria et il les avait envoyées à 5 monteurs vidéo sur Fiverr qui lui demandaient des sommes différentes pour monter un petit spot de pub de 30 secondes. Et en gros, il montrait que bah, si tu payes $20, c'est pas pareil que quand tu payes $250. mais surtout avec des résultats, avec des trucs qui, moi, ayant l'œil de quelqu'un qui sait faire un peu de montage, j'étais quand même vachement, vachement créatif, enfin très intéressant. Et donc oui, pour des petits trucs rapides, souvent, Fiverr, ça te donne des compétences que tu n'as pas, ou le petit truc qui te manquait, ou tu vois, la voix qui te manque dans telle ou telle langue, ou l'auteur d'un petit jingle. Enfin, c'est trouver des prestataires pas cher vite fait, Et puis avec l'effet de plateforme où tout à coup tu vois que le type il a, tu vois, 300 commentaires 5 étoiles sur le truc dont toi t'as besoin, donc tu peux y aller à peu près en confiance.
Franchement, la plateforme est très bien foutue, donc c'est intéressant à aller regarder, hein. Franchement, moi je pense que ça, c'est de la bonne culture générale internet de connaître Fiverr, et donc je vous en parle. Et puis,
je suis d'accord.
Dernière bonne, c'est Fiverr, F-I-V-E-R-R. Et deux R, c'est le petit truc. Et dernière culture générale internet. Évidemment, Melinda connaît bien cette news, puisque entre elle qui est gameuse et ses enfants qui adorent Ninja, elle sait que Ninja a commencé à streamer sur YouTube suite à la fermeture de Mixer. Ninja, le plus grand streamer de jeux vidéo du monde, qui joue essentiellement à Fortnite, n'est pas retourné sur Twitch et il est allé sur YouTube, sans doute pour pouvoir continuer à grossir encore plus qu'il n'est aujourd'hui. Si vous n'avez pas entendu parler de Ninja, je ne sais pas ce que vous faites dans votre vie, mais
je
effectivement,
sais pas quel âge c'est plus vous avez.
Exactement. Mais donc voilà, Ninja est sur YouTube maintenant. Grosse nouvelle, parce qu'évidemment, le marché des plateformes de streaming de jeux vidéo est en pleine croissance. Le fait que Ninja soit allé sur YouTube, c'est hyper intéressant.
Ninja, pour moi, je suis admirative de son talent économique. Ouais. C'est quand même quelqu'un qui est passé, qui était la star de Twitch, qui est parti sur Mixer à la surprise générale. Alors Mixer, si vous ne saviez pas ce que c'était, pour ceux qui ne sauraient pas, c'était la plateforme de streaming de Microsoft qui va fermer ses portes là le 22 juillet, je crois, si je me souviens
bien. Petit ange parti trop tôt.
Voilà, exactement. Qui n'a jamais réussi à décoller. Enfin, c'est un Mixer, pour moi, est une énigme totale. Ils avaient fait venir Ninja à prix d'or, vraiment.
On parle de 30 millions de dollars, hein. Oui,
c'était un truc, voilà, on parle de Ninja, il a quoi, 25 ans, même pas, je ne sais pas même quel âge il a. Enfin, il avait dealé ça de folie. Et Mixer ferme et s'est allié à Facebook Gaming, ce qui était quand même une autre surprise. Et on s'attendait à retrouver Ninja sur Facebook Gaming. Et non, il a négocié son licenciement quelque part pour partir avec un gros chèque et, à mon avis, en toucher un autre en arrivant sur YouTube. Enfin, je trouve ça...
Alors, on parlerait de Facebook qui aurait proposé 60 millions de dollars. C'est des rumeurs, hein, donc c'est peut-être pas le cas, mais vu les sommes en jeu et les enjeux tout court, c'est pas forcément irrationnel de penser à ces chiffres-là. Mais on a entendu parler de 60 millions de dollars pour Ninja, pour qu'il aille chez Facebook. Il a dit non, merci, je vais aller chez YouTube. De notoriété publique, YouTube ne paye pas les streamers pour aller chez eux. Mais le truc, c'est que YouTube est une plateforme sur laquelle Ninja peut croître beaucoup plus que Twitch. En fait, Twitch, il est déjà le roi de Twitch. Donc, là où il peut grossir encore, c'est sur YouTube, qui a une audience qui dépasse le streaming de jeux vidéo et qui est le jeu vidéo dans son ensemble, bien sûr, et puis au-delà du jeu vidéo. Donc, bon, ça ne veut pas dire qu'il va forcément grossir plus sur YouTube, mais si c'est possible, c'est là et pas sur Twitch. Donc, c'est une démarche intéressante.
Je pense que là où il a été malin, c'est qu'il ne... De ce que j'ai compris, il ne veut plus signer d'exclusivité. Donc, il va aller taper partout. Enfin, je crois que son premier live a fait quelque chose comme 150 000 spectateurs simultanés.
Ah ben, j'en doute pas. Et en plus, je sais pas combien il a fait simultané, mais il a juste tweeté un truc une demi-heure avant. Tout le monde se demandait, bon, il va aller où ? On se doutait qu'il allait chez YouTube. Mais il a juste tweeté un truc, c'est pas qu'il a fait une grosse annonce, une vidéo, une machin. Non, je vais aller sur YouTube tout à l'heure. Vous venez si vous voulez. Et je sais pas combien de vues il a fait, mais enfin... Bon,
c'est 5-6 millions d'abonnés, hein, sur Twitter Ninja. Donc, de toute façon, dès qu'il dit un truc, c'est démultiplié. Hein.
Voilà encore un truc qui ne va pas encourager nos enfants à travailler à l'école. Hein.
Ah bah, tu comprends bien.
Ça, c'était l'observation vieux con du jour. Hein, c'est
pas... Plus tard, ils veulent faire e-sportif ou youtubeur. Franchement, tu comprends. Uh-huh.
Écoute,
la culture de l'image et des sous, elle est là. Hein.
Moi, je vais pas, je suis ni youtubeur ni sportif, mais je vais pas non plus leur jeter la pierre vu mon métier.
Ah.
Donc, mais en fait, ma grande, allez, on a déjà fait long, on va dépasser encore un tout petit peu plus. Ma grande question qui se pose jour après jour aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je fais si demain ou dans quelques années, mon fils vient me voir et me dit « Ah, papa, moi, je voudrais être Twitch, je voudrais streamer sur Twitch, je voudrais faire ça quand je serai grand. » Je dis, mais enfin, mon petit, c'est pas sérieux de travailler sur Internet. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise ? Passe ton bac d'abord. Je crois que...
Tu auras ta chaîne YouTube après.
C'est ça, exactement. Bon, bah écoutez, je vous remercie tous les deux pour cet épisode passionnant. On a évoqué de nombreux sujets différents. Avant de se quitter, si nos auditeurs veulent plus de Melinda ou plus de Cédric, il faut leur dire où ils peuvent aller. Commençons avec Cédric, tiens.
Bah, @Cédric sur Twitter, et puis on verra à la rentrée ce qui va se passer. Je me fais engueuler sur Twitter tout le temps parce que j'ai arrêté On déconfine l'info, qui était ce podcast quotidien où
petit
on parlait quasiment que du Covid.
Trop tôt.
Voilà, ouais, alors c'est là, pas vraiment, parce qu'en fait,
c'est dommage, mais c'était pas plus mal qu'on soit déconfiné un moment.
ouais, je suis assez d'accord, mais c'est vrai que je me fais engueuler en disant, mais non, mais pourquoi vous, mais c'est pas sérieux. Alors, il y en a qui engueulent la chaîne d'ailleurs, et moi je précise que non, on s'arrête, entre autres parce que j'ai besoin de prendre des vacances, et surtout parce que j'ai besoin de les prendre maintenant, parce que je sens bien que tout à coup, si tout à coup il y a une vraie deuxième vague qui revient en août, on va me redire, bah écoute Cédric, tu peux redisparaître dans ta cave pour le refaire.
On reconfine l'info, c'est ça?
C'est bravo, je le dépose immédiatement, on reconfine l'info.com. Donc voilà, mais il n'est pas exclu que ça revienne, je ne sais pas, on pourrait imaginer en faire une hebdo par exemple, pour me laisser le temps de faire d'autres choses aussi. Donc voilà, il se passera ça, et puis il y aura probablement d'autres podcasts et plein de choses sur l'antenne d'LCI à la rentrée. Et voilà.
Très bien, je sens que tu as les mots qui te brûlent la bouche de sortir un petit peu plus, mais que tu ne peux pas écouter.
Non, mais c'est vrai que depuis que j'ai arrêté, ça fait il n'y a pas deux semaines, hein, ça fait 10 jours, le nombre de sujets que je vois tomber, de trucs où je me dis, ah, quand même, ça manque de contenu maintenant, là, tout à coup, c'est quand même revenu, ça y est, ça tombe comme à Gravelotte, c'est reparti comme en 14, donc, c'est un truc qui ne manquerait pas de contenu, donc on aura probablement l'occasion de s'en reparler.
On attendra ça avec impatience. Mélinda.
Moi, donc sur frandroid.com maintenant, frandroid.fr, depuis que j'ai abandonné Cédric à son triste sort et à son podcast. Et sinon, sur Twitter, beaucoup. Voilà. Donc moi, mon petit compte, c'est @Mélinda_DS. Si vous voulez venir discuter, tech, jeux vidéo, tout, blaguer, voilà. Vous êtes les bienvenus tous.
Et on aura les liens vers les comptes Twitter dans les notes de l'émission, évidemment. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Si vous voulez des photos de mes vacances à moi, dans lesquelles je vais partir là dans quelques jours. Normalement, c'est mon dernier jour de travail avant mes vacances. Alors, je mets des guillemets, hein, parce qu'il y a quand même des choses à faire pendant les vacances. C'est le lot des personnes qui travaillent en indépendant. Mais si vous voulez suivre un petit peu mes aventures de vacances, ou d'ailleurs mes aventures tout court, c'est notamment sur Instagram. Je suis NotePatrick sur cette plateforme. Vous pouvez également commenter sur tout ce qu'on a dit sur frenchspin.fr dans l'article de cet épisode. Et bien sûr, vous pouvez également soutenir l'émission sur patreon.com/rdvtech. N'oubliez pas, quand vous rentrez à la maison, Kling Patrick, on l'a assez dit, vous pouvez soutenir à votre rythme, comme vous le souhaitez, et vous permettez à l'émission d'exister. Moi donc, je pars en vacances, vous allez être entre de bonnes mains, entre des épisodes avec des sujets hyper intéressants qu'on a préenregistrés, où je serai présent, et des co-animateurs qui vont prendre d'assaut l'émission pour vous conter l'actualité pendant mon absence. Je pense que ça va être un plaisir renouvelé à chaque nouvel épisode. Et je vous donne donc rendez-vous dans quelques semaines pour le retour de Patrick. Je vous fais d'énormes bises à tous et à toutes, et à très bientôt. Ciao, ciao!
I'm Andrea, founder of a boutique handbag brand, Andy, and this is why I switched to Shopify. I tried 3 other platforms prior to Shopify, and I remember my breaking point was when I would try to make one little change and my entire site would go down. Shopify made it really easy for me to shift everything over and hit the ground running. I was able to migrate my products and all of my customer information over.
Get a $1 per month trial period at shopify.com/listen. Go to shopify.com/listen to take your business to the next level today.